Bonjour à tous, bienvenue, bon début de semaine. Voici le Bistrot de la Vie. Et ce matin, nous allons parler du divorce et surtout se préoccuper des enfants. Les enfants, même si on a l'impression, et on verra comment ils peuvent le prendre, soit ils montrent leur douleur, soit ils la cachent. En tous les cas, c'est rien d'anodin. Et on va voir un peu les questions qu'ils peuvent se poser dans leur tête, les questions qu'ils peuvent poser à leur famille, à leurs parents, et comment y répondre. Alors certains mariages se terminent soudainement, tandis que d'autres semblent s'effriter au cours d'une longue période. Quelle qu'en soit la cause, le divorce arrive. Pour le couple qui se sépare, il devra affronter toute une gamme d'émotions intenses, la tristesse, la colère, la souffrance, la peur d'un avenir incertain, la solitude, la confusion devant certaines décisions à prendre et le sentiment d'échec face à la perte de ses projets et de ses rêves futurs. Si tout cela fait déjà beaucoup pour l'adulte, il ne faut pas oublier peut-être l'essentiel d'un couple, ce sont les enfants qui sont profondément affectés lorsque les parents se séparent. Ils peuvent même présenter des signes de confusion ou de troubles émotifs et adopter un comportement régressif. Que se passe-t-il dans ces moments-là, dans la tête de ces enfants? Quelles sont les questions? Comment y répondre? Parce que c'est pas toujours facile quand on est dans une situation extrêmement compliquée. On va en parler ce matin avec nos invités, bien sûr, et vos questions. Le standard est ouvert, 0800 92 68 80 30. Vous pouvez témoigner si vous êtes maman, si vous êtes papa, si maintenant vous êtes adulte, si vous avez été petite fille, un petit garçon dont les parents ont divorcé. Comment répondez à vos questions? Est-ce que vous en avez posé? Est-ce que vous avez osé en poser? Parce qu'on sait que la parole était peut-être un petit peu plus compliquée à l'époque. En tous les cas, pour en parler ce matin longuement dans le Bistrot de la Vie, Fanny Cohen-Herlem est avec nous. Bonjour et bienvenue, Fanny.
Bonjour.
Vous êtes pédopsychiatre, vous êtes expert auprès des tribunaux et vous avez sorti ce livre qui est très très bien fait, qui s'appelle « Le divorce, comment répondre aux questions des enfants ». C'est paru aux éditions Pascal dans la collection Psy. Et à vos côtés, on est ravis de recevoir quelqu'un qui connaît bien aussi le monde de la famille. C'est Olga Odinets. Bonjour Olga.
Bonjour.
Olga, vous êtes la présidente d'ACALPAM, l'association contre l'aliénation parentale. Vous allez nous réexpliquer un petit peu quel est votre rôle. Et puis je voudrais dire également qu'aux éditions Labor, cette aliénation parentale, hein, divorce et séparation, il y a également un livre qu'on peut trouver qui peut donner énormément peut-être de ressources à tous ceux qui sont dans des situations difficiles. Alors, ma chère Olga, vous nous parlez d'ACALPA.
Oui, alors ACALPA est une association qui a été fondée cette année, en début d'année, par des parents qui sont victimes d'une entrave à l'exercice de l'autorité parentale et dont les enfants, qui sont en rupture de lien avec leurs enfants dans le cadre d'une séparation ou d'un divorce très conflictuel. Mmh. Alors nous travaillons aussi avec des spécialistes du droit et de la santé. Donc c'est une association un petit peu parentale différente des autres parce que nous sommes en interface entre les familles et donc les professionnels.
Et votre, bien sûr que vous aidez les adultes, mais ce qu'il y a au cœur de la situation, ce sont les enfants.
Bien sûr, notre principale préoccupation, c'est la protection des enfants lors des séparations parentales. Il y a tout de même des chiffres qui doivent être cités. Nous avons actuellement un divorce pour 3 unions et 45% des enfants naissent hors du mariage. Donc c'est des chiffres qui traduisent la grande fragilité des mineurs dans des situations où les adultes peuvent un petit peu perdre les pédales et être en conflit.
Vous le disiez, Olga, vous êtes là aussi pour vous occuper des divorces extrêmement compliqués. Donc on connaît le drame d'un divorce, la souffrance, la douleur, et puis on a fait tous ces sentiments qui arrivent en même temps. Est-ce que la préoccupation principale reste quand même l'enfant? Est-ce que l'adulte arrive à passer au-dessus de tout ça à un certain moment et se dire mais là, je suis coincée, je vois plus mes enfants. C'est très douloureux de pas pouvoir les élever, de pas continuer. Il n'y a pas que des pères qui ne voient pas leurs enfants.
Tout à fait. Vous avez et des pères et des mères qui sont en rupture de lien. Alors pourquoi? Parce que certains adultes sont en très grande difficulté de séparation. Ils n'arrivent pas à gérer cette crise conjugale et se rattrapent à leurs enfants comme une vouée de secours.
Donc ils sont pris en otage.
Ils sont pris en otage. Et d'otage, ils deviennent acteurs d'un conflit qui n'est pas le leur. Ouais. Alors nous avons une plateforme de travail justement avec les professionnels et aussi le monde politique dans le sens de la prévention.
Ouais.
Donc pour mettre en place aussi bien une campagne de publicitaire qui prévient les parents sur les dommages terribles qu'ils peuvent faire sur leurs enfants, et aussi mettre en place des instruments à disposition et des parents et des magistrats pour accompagner ces personnes, ces adultes, au cours des procédures et les soutenir dans leurs difficultés parentales.
Alors c'est très jeune association, hein, oui. Mais primordiale. Hein, on va en parler, Fanny, parce que on va voir dans votre livre toutes les questions que peuvent se poser les enfants. Il y en a certaines qui sont, j'ai envie de dire, mignonnes, qui prêtent à sourire parce que on s'attend pas à ce genre de questions. Mmh. Mais quand on y réfléchit, si on se met dans cette situation, elles sont toutes dramatiques. Ces questions, il y a un sentiment de mais d'abandon terrible. Qu'est-ce que ça veut dire au sens large pour un enfant que ses parents se séparent? Est-ce que c'est l'immeuble qui leur tombe sur la tête? C'est une catastrophe? C'est quoi?
Alors, j'ai envie de dire que ça dépend, hein, parce que je dis aussi quelque part dans le livre que certains enfants sont soulagés, parce que plutôt que de vivre avec des parents qui se déchirent, au fond c'est un soulagement pour eux de les voir se séparer et d'être comme ça extrait d'un conflit majeur. Bon, ça c'est un point.
Mais ça enlève un beau rêve quand même.
Ça enlève effectivement un beau rêve. Pour les enfants c'est toujours extrêmement difficile parce qu'ils se demandent la plupart du temps en quoi ils ont failli eux en tant qu'enfants, c'est-à-dire qu'ils prennent la faute sur eux très souvent et que tout le travail consiste à les dédouaner et leur expliquer qu'ils n'y sont pas pour grand-chose ou qu'ils n'y sont strictement pour rien. Et d'autre part, c'est vrai que leur rêve étant de rester toujours avec un papa et une maman, moi j'ai vu effectivement des enfants dont les parents étaient séparés ou divorcés depuis très longtemps et qui rêvaient encore que leurs parents se remettent ensemble, quand bien même ces deux parents avaient refait leur vie et avaient des enfants chacun de leur côté.
Alors moi je voudrais savoir avec vous, Olga, qu'on soit extrêmement précis ce matin, est-ce que les enfants dans un divorce ont des droits?
Alors,
et à partir de quel âge?
Alors, les enfants, absolument, ils ont le droit d'être entendus. Ils ont le droit d'être entendus par le juge. Ils ont le droit également d'avoir un avocat qui défende leurs droits. Même un enfant, disons tout petit ou un nouveau-né, peut avoir une défense nommée par le juge.
Rarement, dans un divorce, on est tenté de dire l'enfant va aller devant le juge. On trouve que c'est un trop grand traumatisme. C'est une erreur, vous pensez?
Non, je pense pas. Nous sommes dans une société extrêmement judiciarisée, donc on n'a plus peur. Ni des juges, ni même, je dirais, des forces publiques. Donc nous avons un recours de plus en plus fréquent au droit. Les enfants peuvent être entendus, vont demander quels sont leurs droits. Alors à partir de 13 ans, en revanche, c'est une rupture dans l'enfance. Ils ont le droit de choisir le parent avec qui ils veulent vivre. Et donc là, quand je dis 13 ans, ça montre que le temps de l'enfance a des dates butoirs dont il faut absolument tenir compte dans la durée des procédures. Il y a des dossiers qui doivent aller très vite, parce qu'il y a 13 ans et après à 18 ans, l'enfant est majeur.
Oui, ça va très très vite.
Oui. Parce qu'il y a des dossiers qui peuvent durer tout de même, un appel peut durer 2 ans.
Ah oui. Alors, moi ce que je voudrais savoir avec Fanny Cohen-Herlem, puisque vous êtes pédopsychiatre, est-ce qu'à 13 ans, un enfant qui est pris dans une tourmente, parce que même si au départ il se sent soulagé, c'est
quand même la tourmente.
C'est la tourmente, il y avait des conflits, il n'en pouvait plus, ça le perturbe de voir ses parents qui se disputent, qui se déchirent. Est-ce qu'à 13 ans, on a suffisamment réfléchi sur la vie? Est-ce qu'on connaît suffisamment les choses de la vie pour prendre une décision? D'un seul coup, sur l'instant, on va dire, je vais aller vers maman parce que peut-être qu'elle est plus câline, on la sent plus malheureuse, et puis 6 mois après, c'est papa. Alors comment on fait dans ces cas-là?
Oui, moi je crois pas que les enfants soient capables vraiment de prendre des décisions, c'est-à-dire qu'ils peuvent... Je crois que c'est très important qu'ils soient entendus, effectivement, c'est qu'ils puissent dire quelque chose, mais que les adultes restent des adultes dans cette situation et des adultes neutres. Enfin, je parle de la justice et qu'il est par définition, et que les parents peut-être essayent aussi d'entendre ce que l'enfant dit quand il dit je veux aller avec un tel ou un tel. C'est-à-dire que l'enfant, il a toujours l'impression que le parent avec lequel il va, soit est le plus malheureux, soit effectivement lui paraît comme ça le plus facile à vivre, on va dire entre guillemets. Mais c'est comme s'ils divorçaient de l'autre. Hein. Souvent, les enfants disent « Papa, maman divorce, est-ce que moi aussi je suis divorcée ?» Moi, je leur dis « Mais non, c'est une histoire d'adulte et pas une histoire d'enfant. Et ce n'est pas parce que tu aurais envie d'aller vivre avec ton père que on va penser que tu n'aimes pas ta mère et vice-versa. » Donc, c'est vraiment...
un choix quand même que très...
On lui demande un choix et moi, difficile. Je crois que ce choix doit être accompagné par les adultes, par la justice, c'est-à-dire de lui faire entendre que le choix qu'il fait ou qu'on accompagne n'est pas quelque chose qui signifie que l'autre n'est pas aimé ou que l'autre est détesté ou que l'autre n'est pas bon ou incapable. Je crois qu'on doit aussi soutenir le choix des enfants par cette aide-là.
Mmh. Olga, vous le rappeliez tout à l'heure, c'est une toute jeune association. Elle démarre bien pourtant, hein. Il y avait un manque.
Oui, tout à fait, parce que nous avons une place qui est très originale et très spécifique et nous avons beaucoup de parents qui s'adressent à nous, soit par téléphone et surtout par le site internet.
Mmh. On va le rappeler, le site internet.
Oui, tout à fait, c'est www.acalpa.org.
Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire que, au sens large, il y a les trois grandes attitudes de l'enfant lorsque les parents divorcent et se séparent? Il y a ceux qui vont rester silencieux sur le sujet, il y a ceux qui vont, au contraire, se révolter, et puis la troisième attitude, il y a ceux qui sont soulagés, mais on sait pas. C'est le soulagement qui prime, mais il y a d'autres problèmes après. Comment on peut décrypter ça?
Alors comment on peut décrypter, c'est-à-dire comment on peut le voir?
Ah oui, comment on décrypte? Alors, ce qu'on dit que les enfants, à ce niveau-là, hein, surtout papa et maman, ils n'aiment pas le changement.
Non, les enfants, ils n'aiment pas le changement. En tout cas, les jeunes enfants n'aiment pas le changement. Ils aiment bien garder leurs repères. Ils ont besoin que la vie soit quand même bien organisée. C'est comme ça qu'ils s'y retrouvent et c'est comme ça aussi qu'ils peuvent se construire. Alors, c'est vrai que les changements, c'est compliqué. Donc, il y a sûrement quelque chose à faire pour leur expliquer tout ce qui va se passer. Alors, au niveau des symptômes, puisque je crois que c'est là-dessus que vous m'interrogez, je crois que les enfants... Alors, selon les âges, hein, c'est, évidemment, ce ne sont pas les mêmes, mais tout ce qui... tourne autour des problèmes de sommeil, des problèmes scolaires, des problèmes de comportement, c'est-à-dire au fond tous les symptômes généraux que présentent les enfants pour exprimer leur souffrance, on peut les retrouver à cet endroit-là. Mais aussi les enfants effectivement qui se rétractent, si j'ose dire, c'est-à-dire qui se mettent de côté, qui ne disent rien. Puis alors il y en a parmi eux des enfants qui somatisent, c'est-à-dire qui développent tout d'un coup des petites maladies ou des grosses maladies et qu'on peut tout à fait mettre en relation avec quelque chose qui est de l'ordre de la dépression, hein, qui est causée par cette séparation et tous ces changements. Et là, c'est vrai que ça nécessite d'être extrêmement attentif. Alors, c'est vrai que pour les jeunes enfants qui sont en classe, les enseignants sont d'un grand secours parce que c'est eux qui sont aussi aux premières loges. C'est-à-dire que les parents, ils sont empatouillés dans leurs histoires et parfois, ils ne voient rien. Alors que les enseignants, eux, tout d'un coup, voient une chute sur le plan des résultats ou un enfant qui devient plus agressif ou un enfant qui est inattentif. Et c'est effectivement très important.
Alors ça, j'allais dire, c'est dans le meilleur des cas.
Oui. Hein,
c'est dans le meilleur des cas. Olga, qui s'occupe avec son association Acalpa de... vraiment de divorces très compliqués, où il y a des drames, où certains parents, maman comme papa, sont privés, ne voient plus leurs enfants. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez de temps en temps quand même des nouvelles, vous savez comment, dans quel état sont les enfants. Sans dévoiler le secret, mais tous ceux qui sont avec vous, tous ceux qui, les parents qui souffrent et qui se concentrent hein, pour trouver une solution pour l'avenir de ces enfants, comment ça se passe pour ces enfants? Ils sont complètement déstructurés.
Alors déjà, avoir des nouvelles, c'est un petit peu difficile parce que vous avez évidemment la loi sur l'autorité parentale partagée, mais elle est très difficilement applicable en cas de conflit. Donc, juridiquement, elle peut se traduire uniquement par deux délits, c'est-à-dire le non-respect du droit de visite, on voit plus ses enfants, et le non-paiement de la pension alimentaire. J'ai même le parent qui voit pas les enfants, qui continue à la payer. Mais on ne peut pas reprocher, on peut avoir aucun recours quand on n'a pas de nouvelles de son enfant, quand on ne sait pas dans quelle école il a été inscrit. Donc il faut faire toute une enquête avec des huissiers, essayer de retrouver l'école, ensuite se mettre en rapport avec le directeur de l'école. Et là, c'est difficile, on n'a pas toujours le soutien parce que ce n'est pas la mission de l'éducation nationale que de fournir un soutien aux enfants en difficulté familiale. Donc derrière la neutralité, c'est une neutralité
orientée.
Voilà, tout à fait. C'est une non-assistance à personne en danger parfois. Quand les enfants sont dans une grande souffrance, il y a peu d'assistantes sociales scolaires. Donc il n'y a pas de... disons, c'est une démarche personnelle qu'un enseignant va avoir envers un enfant. Donc déjà, le lien est très difficile à maintenir et quand on arrive à retrouver ces enfants, ils sont tout de même en grande difficulté psychologique parce qu'on ne peut pas se construire son identité en l'absence d'un parent qui est toujours vivant et que l'on doit considérer comme exclu de sa vie ou pire, son ennemi que l'on doit détruire.
Parce que là, c'est pas on se voit tous les 15 jours.
Ah non, là on ne se voit plus, tu n'es plus notre mère, on ne veut plus te voir, tu n'es plus notre père, tu sors de notre vie, tu as divorcé de maman, tu n'existes plus pour nous. Mm-hmm. Ce sont des paroles dures, ce sont des paroles de rejet, de haine et de destruction. Et donc en détruisant l'autre parent, l'enfant se détruit lui-même, il ne s'en aperçoit pas.
Mais peut-être un peu jeune pour ça, même s'ils sont adolescents, et comprendront plus
mais
tard
après,
que
tout
il y a
fait.
Deux racines.
Hein, oui, tout à fait. Alors nous avons des témoignages de jeunes adultes qui ont été victimes d'un divorce de leurs parents très conflictuels, et ils souffrent énormément, ils sont généralement en thérapie, et avec des problèmes identitaires et surtout de manque d'assurance en soi, ils n'arrivent plus à croire aux autres, à la société, à faire confiance. Ils ne font plus confiance ni aux autres ni à eux-mêmes.
Alors on va faire une première pause. Après cette première pause, on va revenir sur les enfants et les questions qu'ils peuvent se poser dans les cas difficiles et très difficiles. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a des cas bénins, ça c'est pas possible.
Mais on ne les voit pas quand ils sont bénins.
Mais avant, on va se poser une question essentielle et on va y réfléchir pendant une première pause. Pourquoi les adultes se servent-ils autant, comme ça, des enfants lors de ce conflit qui est le divorce, la séparation ? A tout de suite. Ce matin dans le bistrot de la vie, nous parlons, vous le savez, du divorce et surtout des problèmes que ça cause à tous les enfants. Alors avant, on avait presque envie de dire ils étaient malheureux déjà, mais ils étaient montrés du doigt parce que c'était tellement rare. Maintenant, c'est la généralité, ça n'enlève pas, hein. Même si le divorce est banalisé, ça n'enlève en aucun cas la souffrance. Alors pour en parler ce matin, Fanny Connerlem, pédopsychiatre et qui est l'auteur de « Comment répondre aux questions des enfants ». Concernant le divorce, c'est paru aux éditions Pascal dans la collection Psy. Et puis Olga Odinette, c'est avec nous, elle est présidente d'ACALPA, l'association contre l'aliénation parentale. Alors, avant de se préoccuper vraiment des enfants, ce qui se passe dans leur tête et les questions qu'ils peuvent poser quand on voit encore les deux parents, ils posent à celui qu'on voit tous les jours pas mal de questions, à celui qu'on voit tous les 15 jours, il en pose d'autres. Moi, je voudrais savoir pourquoi on se sert comme ça en otage d'un enfant. Il y a des avocats, il y a des tribunaux, on se déchire, on s'aime plus alors qu'on s'adorait. Bref, on va dire que c'est peut-être la vie. Pourquoi on prend l'enfant en otage, à votre avis ? Alors, peut-être Fanny, vous, le côté psy, et puis Olga, le côté de la vie tous les jours, parce que dans son association, elle a que des gens comme ça.
Alors, oui, alors moi, j'ai l'impression, si vous voulez, que les enfants sont comme ça, effectivement, pris comme messagers de la souffrance du parent qui a été divorcé, si j'ose dire, comme disent les enfants. Et c'est-à-dire que il y a, là où il y avait de l'amour, il y a maintenant de la haine, et que cette haine, ça correspond vraiment à une souffrance extrême, je pense, de celui qui a été quitté et qui n'arrive pas du tout à la, si j'ose dire, métaboliser, c'est-à-dire à en faire autre chose. C'est-à-dire qu'il se sent, je pense, atteint dans sa chair, dans son intimité, dans sa personne, de façon extrêmement profonde et tellement profonde que c'est insupportable. Et que du coup, pour survivre, je pense qu'il y a quelque chose de ça aussi, il n'y a pas que ça, il faut absolument se battre contre l'autre et se battre contre l'autre avec la seule arme, alors parce qu'à ce moment-là, les enfants sont utilisés comme une arme, effectivement. Et puis, je crois qu'il y a d'autres aspects de la question qui seraient effectivement des parents qui sont, je dirais, avec des pathologies personnelles, ça existe, hein, évidemment, on le sait bien, qui n'étaient pas révélés avant et qui, à l'occasion de cette séparation, montrent qu'ils sont dans un désir de maîtrise et d'écrasement de l'autre et de vouloir montrer effectivement qu'ils ont raison, que c'est eux qui avaient raison de vouloir divorcer ou raison de se plaindre de l'autre et qui à ce moment-là se servent des enfants pour démontrer leurs droits et effectivement le fait qu'ils avaient raison.
Olga, quand on arrive à des séparations extrêmement difficiles dont vous vous occupez dans votre association, est-ce que vous pouvez dire qu'à certains moments c'est même manipuler l'enfant ?
Absolument, l'enfant, un message qui est très monolithique et qui est très en noir et blanc, donc il rejette en bloc l'une de ses familles et va idéaliser totalement l'autre. Et c'est vraiment l'un des critères de cette manipulation. Parce que moi, elle ne voit plus les détails, les défauts des uns et des autres. Donc c'est une vision qui était en couleur et brusquement, et ils sont dans la pathologie du noir et blanc.
Ouais. Est-ce que vous avez l'impression, l'une comme l'autre, que la première question qui peut venir à l'esprit d'un enfant dont les parents se séparent, pourquoi vous divorcez ? Est-ce que c'est la première grande question ?
Oui, enfin, dans mon expérience, c'est vraiment la première question. Effectivement, de savoir pourquoi ceux-là qui s'aimaient, tout d'un coup, ils se séparent. Et bon, je raconte ça dans le livre. Alors, c'est peut-être dans des divorces moins douloureux que ceux que Olga peut voir, peut rencontrer. Je les rencontre effectivement pas dans le même cadre, mais les enfants disent, mais moi, quand je me dispute, on me dit de me rabibocher avec mes copines ou mes copains. Ça, c'est pour les plus jeunes. Donc, pourquoi eux ? Et puis, ils ne le font pas. Et pourquoi eux, ils ne pensent pas à moi ? C'est-à-dire à toute la souffrance que j'ai, moi, en tant qu'enfant. Il ferait mieux quand même de se débrouiller. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de très difficile pour les enfants de comprendre, parce que ils ont aussi une vision, même si la vie est difficile actuellement, même si on voit beaucoup de choses très très douloureuses au quotidien, c'est vrai que les enfants ils gardent aussi une vision comme ça un peu idéalisée de la vie et de leur cocon, et c'est tant mieux parce que c'est aussi ce qui leur permet de devenir des petits êtres autonomes, et que tout d'un coup quand ça s'écroule, il y a quelque chose d'incompréhensible. Les adultes sont censés être raisonnables quand même et pouvoir faire face à leurs obligations.
Olga.
Oui, alors je pense tout à fait. Je pense que le problème, c'est pas le divorce, c'est pas la séparation. Le problème, c'est le conflit. Et donc les enfants, ils sont pris en otage, non pas dans le divorce, mais dans le conflit du divorce. Mmh. Ils peuvent être pris en otage également dans un conflit familial sans qu'il y ait séparation des parents. Ils peuvent être amenés justement à choisir un camp et être plus proches d'un parent contre l'autre. Donc c'est pour ça, nous parlions de prévention et non pas de divorce, de prévention de conflits.
Oui, mais ça on va reparler tout à l'heure, hein, parce que vous mettrez l'accent sur cette prévention. À cette grande question, la première qui arrive peut-être dans la tête des enfants, pourquoi divorcez-vous ? La mauvaise réponse, c'est « je ne peux pas t'expliquer, ce sont des histoires de grands ».
Ah oui, ça c'est vraiment la raison la pire, hein, parce que je crois qu'il y a toujours une raison qu'on peut donner aux enfants, la plus simple étant « on ne s'aime plus ». Je crois que c'est vraiment le béaba. Je crois qu'on, il y a des choses effectivement qui ne regardent pas les enfants. Je le crois profondément. Des histoires d'adultes, moi j'ai toujours écouté quand la porte de la chambre des parents est fermée, ça ne regarde pas les enfants. Mais on se doit de leur dire quelque chose, on se doit de leur donner les moyens de comprendre là où ils en sont en fonction de leur âge, de ce qui a pu se passer entre les adultes pour qu'ils ne... ils ne fantasment pas trop, alors ça on peut pas s'empêcher, hein, d'imaginer, etc., tout ce qu'on veut. Mais en même temps, on doit leur donner quelque chose qui puisse leur permettre de construire pour eux une histoire qui va correspondre quand même au plus de vérité possible concernant leurs parents.
Mmh. Alors Olga, avant que les couples en arrivent à des situations dramatiques, hein, parce que vous êtes, vous, dans le noir hein, des séparations à votre association, je suppose que tous les parents que vous avez en charge ont expliqué à un moment ou un autre qu'ils allaient se séparer ou que le conjoint ou la conjointe ne voulait plus d'eux. Ça, vous l'avez fait.
Oui, tout à fait. Donc, c'est très difficile. Le conflit peut surgir à n'importe quel moment. Vous avez des divorces qui commencent très bien, des parents qui peuvent même se séparer et vivre pendant quelques mois, voire pendant quelques années, de chacun de leur côté, les enfants, voire les deux parents. Et puis, brusquement, l'un des parents va refaire sa vie, va trouver un compagnon et l'autre ne le supporte pas. Il y a un sursaut de vindicatif, il y a un sursaut de conflit, l'enfant va être pris en otage. Donc rien n'est jamais gagné. Il faut toujours réinvestir, il faut travailler la séparation, disons l'apaisement et la construction identitaire de l'enfant jour après jour et pendant des années.
Comment on explique aux enfants? Alors là, on va avoir le témoignage d'Olga et ensuite le vôtre, Fanny. Comment on explique aux enfants que, effectivement, dans l'organisation allez, quotidienne, les choses vont changer. Mais que ce ne sera pas non plus peut-être un énorme bouleversement pour un adulte, mais pour un plus petit, oui. Comment on explique ça à un enfant? C'est difficile?
Oui, je sais pas, la vie actuellement est beaucoup plus, disons, dynamique et beaucoup plus rapide qu'elle ne l'était.
Oui, ça n'empêche qu'on a quand même des...
Il y a 20 ou 30 ans.
Oui, chaque famille a quand même des, j'allais dire...
des repères, tout à fait, une histoire familiale. Bien sûr. Donc effectivement, il y a des familles qui n'ont pas beaucoup bougé, ni dans l'espace, ni dans les activités. Et pour eux, ça sera un petit peu difficile d'expliquer à l'enfant qu'il aura deux maisons, qu'il aura deux familles, et qu'il aura peut-être deux fois plus d'amis. Mm-hmm. Et essayer de montrer le côté positif. Deux fois plus de fêtes, deux fois plus de cadeaux et surtout et une tranquillité de vie et qu'il aura deux parents heureux.
Alors quand on se sépare, hein, les adultes partagent. Oui. Quand oui. On n'est pas trop en conflit, on partage. Alors vous citez, vous Fanny, dans votre livre des exemples de gosses. Hein, oui. Généralement ils ont entre 8 et 12 ans. Et alors je me souviens de cet exemple où une petite fille, je crois que c'est une petite fille ou un petit gars, non une petite fille, elle arrive dans le nouvel appartement de son papa, elle est très étonnée de trouver les canapés qui étaient avant chez papa et maman, et dans sa tête elle dit mais qu'est-ce qu'ils font là? Absolument, ils vont pas bien là.
Oui, elle était comme ça très très surprise et un peu fâchée en même temps, hein, parce que elle avait bien vu quand même qu'il y avait des choses qui avaient changé chez maman et puis tout d'un coup elle retrouvait les meubles chez papa. Ouais. Donc là aussi il y a quelque chose qu'on peut expliquer aux enfants du partage des choses qui ne correspond justement pas au partage des enfants. Hein. On se partage les objets mais pas les enfants. Les enfants sont les enfants des deux parents et il y a quelque chose comme ça à construire au quotidien avec l'un comme avec l'autre, et les enfants doivent vraiment pouvoir s'y retrouver. Ils doivent pouvoir comprendre. Moi, je pense aussi à cette petite fille ou ce petit garçon qui demandait « Et mon lit, je vais dormir où ?» Et moi, je lui disais « Mais écoute,
t'en auras toujours un.
Il y en aura peut-être un neuf chez papa ou chez maman, mais t'auras forcément un lit. Mais il faudra peut-être un petit peu de temps pour en acheter un, hein, parce que j'ai vu aussi des parents qui, sur le plan financier, du coup, se mettaient en situation difficile. Et le confort dont l'enfant bénéficiait, je veux dire, il peut aussi le perdre. Enfin, ça, c'est aussi une des conséquences des séparations ou des divorces. Et les enfants qui ont l'habitude d'avoir un certain nombre de choses à leur disposition ne les ont plus, ce qui donne lieu parfois à des conflits, parce que les parents se font des reproches mutuels. Enfin, ça, on connaît. Et les enfants doivent aussi pouvoir comprendre que, eh bien, il y a aussi des choses comme ça qui vont changer.
Mmh. Alors, il y a... Je le disais, hein, les enfants n'ont pas le même état d'esprit, et heureusement, que les adultes. Ce qui peut nous paraître mignon, voire drôle, est toujours inquiétant pour eux. Je cite un jeune dans votre livre qui dit « Si j'ai pas eu une bonne note à l'école, ça veut dire que je vais me faire gronder des deux côtés ». Alors, j'ai trouvé ça, c'est vrai, très mignon et j'ai eu un grand sourire, parce que quand papa et maman étaient tous les deux à la maison... si maman avait le carnet de notes avant papa, elle grondait, mais quand papa rentrait, elle grondait aussi. Donc deux fois, il était grondé quand même. Oui. Mais j'ai trouvé ça très mignon, parce que, vous voyez, penser à des petites choses comme ça, mais ça prouve qu'il y a une inquiétude.
Oui, il y a une réelle inquiétude. Alors effectivement, c'est ça qui est intéressant chez les enfants, c'est qu'ils donnent des petits signes qui, pour nous, adultes, pourraient paraître anodins.
Ah oui, complètement, oui.
Alors qu'en fait, ça correspond à une réelle difficulté, c'est-à-dire au fond... Est-ce que ça va être la même chose des deux côtés, l'enfant pouvant se dire c'est déjà assez difficile comme ça, ils vont pas en rajouter en m'attrapant des deux côtés finalement. Mmh. Et que là il y a quelque chose aussi à lui montrer, vous parliez de l'autorité parentale conjointe, c'est-à-dire qu'effectivement les parents doivent être informés de ce qui se passe pour l'enfant, alors par exemple à l'école, au sport ou n'importe où dans ses activités, et être tenu au courant, et l'enfant doit pouvoir leur en parler et s'entendre dire quelque chose aussi à ce propos-là. Mais ça lui montre aussi que ses deux parents s'intéressent à lui. Oui. C'est-à-dire qu'au fond, être grondé des deux côtés, ça montre que ses deux parents, bien que séparés, continuent à s'intéresser à lui de la même façon qu'avant.
Alors, je voudrais qu'on parle quand même un petit peu de la justice, hein, parce que beaucoup d'enfants ne comprennent pas pourquoi on ne fait pas une petite réunion familiale et qu'on ne décide pas.
Oui.
Voilà. Alors, et puis, j'ai quand même des témoignages ce matin de Marie-Pierre qui dit que la justice est très longue dans les cas de divorce difficile, et ça, Olga pourra nous le confirmer. Elle dit que ce qu'on dit est, à l'antenne est bien beau, mais que les enfants souffrent énormément à cause des procès qui durent très longtemps. Et puis également, d'autres réactions de Françoise, qui a été victime du divorce de ses parents lorsqu'elle était toute bébé, elle avait un an. pardon, a été placée chez ses grands-parents, puis elle a été enlevée, élevée. Eh ben dites-moi, ça ne s'arrange pas par son père. Alors, un mot sur le jugement.
Oui. Oui, effectivement, quand il y a des histoires comme ça extrêmement compliquées, c'est vrai que les enfants souffrent. Hein. Moi, là, on parle de choses mignonnes ou des choses qui peuvent s'arranger parce que elles peuvent être parlées par les enfants et par les parents et par le professionnel qui reçoit les enfants. Mais parfois, les jugements étant extrêmement longs, l'enfant se sent complètement partagé entre ses parents dans une très grande douleur parce que lui se sent dans l'obligation de choisir entre son père et sa mère, il ne sait pas s'il va devoir aller vivre chez papa ou vivre chez maman. Parfois, effectivement, c'est tellement conflictuel que l'enfant est enlevé de chez les parents parce que, et ça j'ai vu effectivement des histoires comme ça, surtout quand il y a aussi des allégations de maltraitance de la part d'un des deux parents, où les enfants se trouvent comme ça, placés, soit chez les grands-parents, soit éventuellement dans une maison d'enfants, jusqu'à ce que la justice ait pu faire tranquillement son travail, parce que ça prend du temps pour vérifier tout ce qui se passe. Et les enfants, en même temps, ils ne sont plus là, ils sont séparés et ils doivent vraiment vivre comme ça cette séparation de façon très douloureuse.
Voilà, on va faire une pause et on vous retrouve dans un instant. On va essayer de terminer cette émission parce que moi j'ai beaucoup de mal avec des problèmes de toux, de gorge. Et pourtant, croyez-moi, je me soigne, mais c'est pas facile d'arriver à bout de certains virus. Mais enfin, c'est moins compliqué et moins douloureux en tous les cas que le divorce. Alors, comment répondre aux questions des enfants? C'est toujours en compagnie de Fanny Cohen-Herlem, qui est pédopsychiatre pour son livre, hein, qui est paru aux éditions Pascal dans la collection Psy. Et puis à ses côtés, Olga Ordinette, c'est toujours avec nous, c'est la présidente, je vous le rappelle, d'ACALPA. Alors, vous aviez évoqué tout à l'heure la prévention. Qu'est-ce qu'on peut dire de la prévention ?
Alors, c'est très compliqué, hein, parce que la prévention comme ça du divorce, je veux dire, les parents qui ne sont pas encore en train de divorcer ou dont on souhaite qu'ils ne se séparent jamais, ils vont se dire, ça ne nous regarde pas. Mais au fond, je crois qu'il y a un travail à faire, effectivement, qui serait d'information sur... je dirais les difficultés que peuvent rencontrer les enfants quand les parents se séparent, de la même façon qu'on parle de la prévention pour plein de choses, hein, finalement, et de que les parents puissent comprendre comment leur attitude, leur façon de s'y prendre avec leurs enfants peut causer soit des dégâts, si j'ose dire, soit au contraire aider les enfants dans ces moments difficiles. Moi, je sais qu'il m'est arrivé relativement rarement, je l'avoue, mais quand même que pas mal de fois, mais j'ai pas de statistiques, de recevoir des parents qui me disaient, bon, on a l'intention de se séparer ou on a l'intention de divorcer, nous ne voudrions pas que cela cause des ennuis à nos enfants, comment devons-nous nous y prendre? C'est rare, mais ça montre effectivement qu'il y a quand même du côté des parents, ce que moi je trouve très très bien, toute une réflexion et tout un travail, parce que quand même les parents sont très informés. Quand il y a de la haine, je ne sais pas si la prévention est possible, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancien.
Mmh. Alors est-ce que ça va rappeler de mauvais souvenirs? Je pense oui, Olga, parce que beaucoup de pères ou de mères sont victimes de ça. C'est Alice qui nous dit, victime d'une séparation, bientôt d'un divorce, et il fait du lavage du cerveau à ses enfants. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire?
Alors, je pense qu'il faudrait vraiment que le juge ou d'autres personnes accompagnent les parents dans ces difficultés parentales lors de la séparation, avec un message extrêmement clair et je dirais même musclé, en disant voilà, la séparation c'est une séparation conjugale, vous devez préserver l'image parentale de l'autre. C'est absolument indispensable, ça va au-delà de sa responsabilité de parents, c'est un acte citoyen que nous devons non seulement à nos enfants, mais à nos familles, je dirais même à la société entière. Donc préserver l'image parentale en disant aux enfants, voilà, je quitte ton père, c'est un mari épouvantable, mais c'est un papa formidable et il va le rester. Et maintenant que nous sommes séparés, je suis sûre qu'il va même faire des efforts et devenir encore mieux. Et soutenir l'image parentale, l'image parentale de l'autre, c'est aussi poser les limites et participer à la construction identitaire de l'enfant. Et que chaque parent ait l'habitude, ce sont des mots, mais ça devrait passer dans notre éducation, de soutenir l'autre dans les repères qu'il donne à l'enfant. Et sans ta mère t'envoie au lit, tôt, elle a raison. Et ensuite, lui téléphone en disant, mais tu es complètement folle d'avoir choisi cet horaire, c'est beaucoup trop tôt. Peu importe. Mais devant l'enfant, les deux parents ont des responsabilités. Il faut vraiment les placer devant. Et c'est non seulement être parent soi, mais de participer à la construction de l'image parentale de l'autre.
Oui, mais ça vous le dites, hein, les enfants qui disent, pourquoi je me couche à telle heure,
absolument,
là, il y a tel autre là-bas, et pourquoi je fais ci et pas ça.
Oui, alors en même temps, je voudrais je voudrais juste donner un petit élément supplémentaire, c'est-à-dire que on peut effectivement, je pense que c'est fondamental effectivement de ne pas dénigrer l'autre parent. Ceci dit, je crois que parfois une simple neutralité suffit parce que dans les histoires que nous rencontrons et que vous rencontrez beaucoup plus que moi, vous savez très bien et je sais aussi qu'il y a parfois chez l'autre parent des conduites ou des façons de s'y prendre qui sont extrêmement néfastes pour les enfants. Et quand il y a des histoires de manipulation, on peut se demander effectivement quelle est la pathologie ou la conduite pathologique, pourquoi il y a une telle conduite chez l'autre parent, et on ne peut pas à ce moment-là le valoriser. Mais en tout cas, observer une neutralité, je crois que c'est la moindre des choses, quitte à dire à l'enfant, mais écoute, ton père dit ça sur moi, mais c'est sa vision des choses, ce n'est pas la mienne ou ta mère. Hein. Et essayer de dégager l'enfant de ce qui lui est envoyé comme message.
Alors, autre question, Marie nous dit, qu'est-ce qu'il faut dire à un enfant dont l'un des parents quitte le domicile sans explication?
Ah oui.
Comment on explique ça aux enfants?
Alors ça, c'est des histoires que j'en ai vu pas mal, je dois dire. J'ai pas de réponse univoque, hein. Je crois que, là encore, si le parent qui reste ne sait pas lui-même pourquoi l'autre parent est parti, je crois qu'il peut le dire. C'est-à-dire qu'on peut toujours dire, écoute, je ne sais pas, là c'est Marie qui parle, donc c'est le père de ses enfants. Écoute, je ne sais pas pourquoi ton père est parti, mais probablement qu'il y avait des choses extrêmement difficiles pour lui à vivre, que je ne connais pas, dont il n'a pas pu me parler. Je pense qu'il est malheureux et que peut-être il va réussir à un moment donné ou à un autre à nous en parler, mais pour autant, ça reste ton père et on va essayer de se débrouiller tous les deux ou tous les trois, enfin selon le nombre d'enfants, sans lui.
Alors, il y a des enfants inquiets parce qu'avec une séparation, on peut changer de ville.
Oui.
On peut même aller à l'étranger. Là, ça veut dire qu'on en revient à des cas très difficiles où quelquefois on ne sait plus, hein, Olga, où sont les enfants.
Oui, tout à fait. Donc, on a des cas de confiscation d'enfants où les enfants, on ne peut plus les voir, mais aussi d'enlèvement d'enfants. Oui. D'enlèvement international, donc il y a un problème de juridiction différente, de frontières nationales, et là c'est beaucoup plus difficile.
Ouais. Oui. Alors, dans ces cas-là, quand c'est pas un enlèvement, mais que l'un des parents qui a la garde s'en va dans une autre ville, là c'est compliqué quand même.
Mais c'est plus compliqué. Alors la justice fait quand même les choses pour le mieux, c'est-à-dire que dans la plupart des cas...
dans la tête des enfants.
Alors c'est compliqué dans la tête des enfants, bien sûr, parce que... Alors je crois qu'il y a aussi une explication à donner aux enfants pourquoi on quitte la ville, ou que ce soit le parent gardien des enfants ou le parent non gardien d'ailleurs. Je crois qu'il faut leur expliquer pourquoi on est amené à quitter, de façon à ce qu'ils aient aussi une explication qui leur permette de supporter cette absence qui va être prolongée, puisqu'on ne verra pas l'autre parent tous les 15 jours ou tous les 8 jours ou tous les mercredis, enfin en fonction de ce qui était fait jusque-là. Je crois qu'il est important de maintenir le lien absolument. Il y a plein de moyens de maintenir des liens. Alors bien sûr, ça se substitue pas à une présence, bon, en principe, qui n'est plus quotidienne, hein, puisque quand on est séparés, on vit plus ensemble. Mais il y a effectivement le courrier, les photos, le téléphone, les mails, les enfants ont des portables à partir d'un âge raisonnable, je dirais, se téléphoner régulièrement. Je crois que tout ça est vraiment très très important pour que les enfants gardent un contact avec le parent non gardien. Je l'appelle comme ça, c'est un peu une image un peu laide, mais tant pis. Et puis je pense aussi que les parents, moi je leur rappelle toujours, quand il y a une autorité parentale conjointe, le lien avec l'école fait partie de leurs droits. Et que ils doivent pouvoir demander à l'école de l'enfant de leur envoyer les bulletins trimestriels, les photocopies du carnet de notes, etc. etc. si le parent qui... à l'enfant en résidence principale ne le fait pas, l'autre parent peut le demander à l'école et je crois qu'il faut leur dire.
Mmh. Alors Henriette nous pose une problématique qui arrive très souvent. Hein. Lorsqu'un parent fait remarquer à un de ses enfants, hein, quand il y a eu bien sûr séparation, qu'il ressemble physiquement ou dans ses attitudes, dans son caractère à l'autre parent, que conseillez-vous de dire à l'enfant qui le ressent comme un second divorce? Bah toi, tu ressembles bien à ton père. Quand l'enfant est dans
le fils de ton père, voilà, oui, la fille de ton père d'ailleurs,
voilà,
oui.
Ou de ta mère, oui. Tu sais, quand tu fais une bêtise, bah tiens, là, on dirait ton père, on dirait ta mère. Bon, alors qu'est-ce qu'on dit à l'enfant? Parce que l'enfant, il est fier d'avoir
ses ressemblances
avec le père et avec la mère.
On les fait pas tout seul en général, les enfants, on les fait à deux, donc c'est normal qu'ils aient ils tiennent un petit peu des deux. Mais écoutez, ça c'est des paroles de parents en colère, tout ce qu'on pourrait dire aux parents, c'est on dit pas des choses comme ça, quoi. Je veux dire, les enfants, ils ont pas apporté de façon négative leur ressemblance à l'un des deux parents. Les pauvres.
Alors, les enfants qui sont toujours un peu les messagers,
oui,
du couple. Alors, on va voir papa ou on va voir maman et tu diras que l'enfant, c'est lourd, ça, pour lui.
Oui.
C'est lourd. Il n'a pas envie d'être le messager, quand même. Olga.
Oui, là, on parlait de soutien des parents. Il faut, je pense, également soutenir les enfants parce que les enfants se posent des questions, mais souvent, ils n'ont personne à qui s'adresser et ils ne savent pas bien comment répondre ou si c'est la famille. Forcément, les personnes vont prendre parti de l'un ou de l'autre. Alors, au Canada, il y a des formations de soutien aux enfants, comment survivre au divorce de ses parents. Et ce sont des programmes qui sont financés par l'État fédéral et donc qui aident les enfants à comprendre déjà la séparation des parents, avoir une attitude positive par rapport peut-être à des parents en difficulté et essayer de s'en sortir au mieux.
Alors, oui. On n'en est pas là, nous. Hein.
Non.
On n'en est pas là. C'est vrai que le Canada, pour beaucoup de raisons, hein, quand on traite des problèmes de famille, de société, on a l'impression qu'ils sont très en avance. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'heure actuelle avec, j'ai envie de dire, nos petits moyens?
Mais nos petits moyens, nos moyens, moi, je dirais, parce qu'on en a des moyens. Je crois que chaque culture a sa façon de faire et qu'on peut prendre effectivement le meilleur de chaque. Mais je crois qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Le problème, c'est le fait de parler comme ça avec les enfants. Bon, moi, je reçois énormément d'enfants en consultation et je crois qu'il y a tout un travail qui peut se faire avec les enfants déjà pour les aider à comprendre ce qui se passe au niveau de leurs parents, à comprendre dans quelle situation ils sont, à essayer de répondre à leurs questions. On voit aussi les parents pour essayer de parler avec les parents à la fois de leurs souffrances, à la fois de leur conduite, enfin de faire tout un travail de guidance parentale qui existe dans les consultations de pédopsychiatrie, mais qui existe aussi dans les maisons de la médiation. Donc ça, c'est un travail qui se fait effectivement quand les conflits ne sont pas... Même quand les conflits sont très importants, moi je sais qu'on peut faire un travail aussi auprès d'enfants qui sont manipulés par les parents ou auprès de parents qui se sentent manipulés pour que eux-mêmes se refassent une santé de parents pour pouvoir faire face aux difficultés qu'ils auront à affronter et qu'ils puissent effectivement avoir une position pas uniquement défensive mais une position qui leur permette d'aller de l'avant dans ce genre de difficultés pour parler avec leurs enfants et avec la famille.
En tous les cas, je vous remercie d'être venu ce matin affronter et mes microbes et ce sujet qui est très difficile. Je vous présente d'ailleurs toutes mes excuses que vous avez été obligé de manager à certains moments cette émission, également toutes nos excuses à nos auditeurs. Merci beaucoup à toutes les deux. Je rappelle le divorce, comment répondre aux questions des enfants. C'est vous, Fanny Cohen-Herlem, aux éditions Pascal, collection Psy. Et puis, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Acalpa, vous aurez toutes les coordonnées et le site internet. Très bonne journée et rendez-vous demain.